Midi 1. Mariam, matin famille.
Allez, restez avec nous. On est toujours ensemble, bien évidemment, en direct. Et on prend la direction de Marrakech. Comme je vous le disais, Marrakech, où on retrouve notre spécialiste en oncologie, professeur Ali Tahri. Bonjour.
Bonjour, Mariam.
Et merci beaucoup de répondre présent à cette invitation sur Midi 1. Alors, on parle de ce cancer des ovaires, le cancer de l'ovaire qui reste longtemps silencieux. Les signes apparaîtraient progressivement à mesure que la tumeur évolue. Alors on en parle ce matin, on essaye d'y voir plus clair grâce à vous, professeur Tahri. Comment peut-on d'abord définir ce cancer ?
Alors le cancer de l'ovaire, c'est un cancer heureusement qui n'est pas déjà très fréquent par rapport aux autres cancers gynécologiques. C'est un cancer bien sûr qui va toucher les ovaires qui font partie de l'appareil reproducteur féminin. Et il y a plusieurs parties dans cet ovaire, les cellules épithéliales qui sont les plus touchées, mais parfois c'est le stroma qui est touché aussi.
D'accord.
Alors les ovaires ont une fonction pour pour les ovocytes, c'est là où les ovocytes ils sont emmagasinés, et il y a une fonction dans la sécrétion hormonale féminine.
Alors est-ce qu'il en existe plusieurs formes, professeur Tahri?
Oui, effectivement, il y a plusieurs formes de cancer d'ovaire. Le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome à partir des cellules épithéliales. Il y a aussi ce qu'on appelle les tumeurs germinales à partir du stroma. On a des tumeurs borderline qui sont entre la malignité et la bénignité. Enfin, on a des métastases ovariennes d'autres cancers, c'est-à-dire c'est un cancer surtout au niveau de l'estomac ou au niveau du sein qui donne des métastases au niveau des ovaires, ce qu'on appelle la maladie de Krukenberg.
D'accord. Alors, ces personnes à risque, est-ce qu'on peut dire qu'il existe véritablement des personnes à risque, professeur Tahri?
Non, il y a en dehors du risque génétique, il est quand même assez rare. On va parler de 5 à 10% du risque génétique.
Oui.
Il n'y a pas de facteur de risque particulier de cancer de l'ovaire. Il y a le risque génétique, c'est quoi? C'est des familles où il y a beaucoup de cancers du sein, le cancer de l'ovaire et du côlon. Et on va faire des tests génétiques essentiellement de BRCA1, BRCA2 pour voir si ces personnes sont à risque de cancer de l'ovaire ou pas. En dehors de ça, il y a plusieurs suppositions, mais rien de sûr concernant les facteurs de risque de l'ovaire.
D'accord. Alors ces premiers signes qui devraient nous en alerter, d'abord je disais que ces signes apparaissent progressivement, c'est l'un des cancers qui reste assez silencieux. Est-ce que d'abord c'est vrai? Est-ce que vous le confirmez? Et puis quels peuvent être justement ces signes qui devraient nous en alerter?
Effectivement, c'est un cancer qui est silencieux et la découverte est souvent très tardive.
D'accord.
Alors pourquoi? Parce que l'ovaire va pousser dans la cavité abdominale qui est assez large et donc il va augmenter de taille sans aucune répercussion visible, c'est-à-dire aucun signe clinique. Et à un certain moment, cette masse va comprimer les intestins, donc on aura des problèmes digestifs, va comprimer la vessie, donc on aura des problèmes urinaires, on aura des douleurs abdominales. On sentira que la distension au niveau de l'abdomen, parfois il y a du liquide au niveau de l'abdomen, ce qu'on appelle l'ascite. C'est ça, ces signes qui apparaissent, et malheureusement, ces signes sont souvent, c'est-à-dire la conséquence d'une maladie assez évoluée.
D'accord. Alors, en termes de diagnostic, comment il est posé pour arriver au volet traitement? D'abord, comment posez-vous le diagnostic, professeur?
Alors, on va donner l'exemple d'une femme qui va venir pour une distension abdominale. Il a un ventre qui gonfle, il ne sait pas ce que c'est. Plein de gens croient que c'est des gaz, c'est une colopathie fonctionnelle. Il va partir chez son médecin, généraliste ou spécialiste, il va faire une échographie et il va trouver un ovaire qui est de grande taille et du liquide au niveau de l'abdomen.
Mm-hmm.
Alors, à partir de ce moment-là, on pense à un cancer d'ovaire, parce qu'il y a des signes échographiques assez parlants. En consultation spécialisée, on va lui faire une échographie endovaginale par un gynécologue pour voir l'état effectivement de l'ovaire et c'est-à-dire les caractéristiques de cette tumeur. Et par la suite, on fait un bilan d'extension pour voir un scanner thoraco-abdominopélien, voir une IRM, pour voir et les ovaires, les ganglions, le foie, le poumon, l'os, là où la maladie a pu partir. Et à ce moment-là, on stadifie la maladie en maladie localisée, localement avancée ou métastatique. Et là, on n'est pas sûr si toujours qu'il y a un cancer, mais on sait qu'il y a une tumeur. Et à ce moment-là, il nous faut une biopsie. Soit on fait parfois des chirurgies diagnostiques, on enlève un ovaire et on le diagnostique. Soit on prend du liquide qu'on envoie analyser du site. Si on prend une métastase ganglionnaire, par exemple, il va nous confirmer qu'il s'agit effectivement d'un cancer de l'ovaire.
D'accord.
Ça, c'est pour le volet diagnostic.
D'accord. Alors, côté traitement, comment ça se traite? J'imagine qu'on parle également de chirurgie dans ce cas-là.
Exactement. Alors, il y a deux volets thérapeutiques importants dans le traitement du cancer de l'ovaire. Il y a la chirurgie et il y a les traitements systémiques, chimiothérapie plus thérapie ciblée. Alors, si la tumeur est localisée, on commence par la chirurgie et il faut savoir qu'on n'enlève pas que l'ovaire seul. Parfois, on le fait dans certains cas de tumeurs germinales, c'est chez des filles jeunes qui veulent avoir des enfants. Mais en général, la chirurgie qu'on fait, c'est-à-dire le dos, c'est qu'on enlève et l'utérus et les deux ovaires et les ganglions. Ça s'appelle hystérectomie totale sans conservation annexielle et on fait un curage ganglionnaire pour tout enlever. Et par la suite, on fait de la chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire en post-opératoire, en fonction des critères de la tumeur, en fonction de la teinte ganglionnaire, en fonction de beaucoup de choses. Parfois, quand on a une tumeur avancée, avec une atteinte du péritoine, avec la cyste, on commence par la chimiothérapie, plus ou moins thérapie ciblée, et parfois, si la tumeur, c'est-à-dire il y a une bonne réponse thérapeutique, on opère derrière, et on enlève, c'est-à-dire, encore une fois, l'utérus et les deux ovaires. Si la maladie est très métastatique, on reste malheureusement que dans la chimiothérapie, que dans le traitement systémique seul.
D'accord. Alors, une fois que le diagnostic est posé, une fois que le traitement est mis en place, comment peut-on gérer la maladie au quotidien, professeur Tahari?
Alors, c'est des gens, c'est-à-dire le traitement, il n'est pas très, c'est-à-dire la chirurgie n'a pas de conséquences énormes sur la vie des patients, c'est-à-dire que cette chirurgie-là, après la chirurgie, on peut avoir des bouffées de chaleur, on peut avoir, c'est-à-dire des quelques signes pas très méchants en rapport à un post-opératoire immédiat. On sait, c'est-à-dire le traitement systémique, généralement, ça se passe très bien. Et donc, il faut savoir que dans les stades localisés, on a de très très bons résultats et de très bonnes survies. C'est-à-dire que les gens, après la fin du traitement, peuvent reprendre leur activité normale, leur travail, leur activité physique, sans aucun souci.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on peut prévenir cette maladie, docteur?
Malheureusement, non.
Non, d'accord.
Prévention comme ça, en général, non. Mais là où la prévention serait possible au jour d'aujourd'hui,
c'est l'hygiène de vie.
Les cas...
Oui.
Non, c'est même pas ça. Mmh. L'hygiène de vie, c'est pour tout le monde.
D'accord.
C'est pour les cas familiaux. Les cas familiaux, c'est-à-dire quand on a beaucoup de cas de cancer, au moins deux de cancer du sein, de l'ovaire et du côlon.
D'accord.
On fait des tests génétiques, maintenant ça se fait de routine pratiquement dans toutes les villes du Maroc. Mmh. Et on cherche ces gènes de prédisposition qu'on appelle BRCA1, BRCA2. Attention, comment ça marche? On va chercher ces gènes chez le patient, chez un patient.
Mmh.
Et si on trouve ces gènes chez le patient, on va le chercher chez toute sa famille proche. Ses filles, ses sœurs, ses nièces. Alors, toute la famille proche pour voir ceux qui ont le gène. Et ceux qui veulent, parce qu'il y a certains qui ne veulent pas savoir, parce que ça, c'est quand même un stress. Et c'est-à-dire, les personnes de famille qui font le test, bien sûr, s'il est positif chez la malade, et s'il le trouve positif, ces patients-là sont à risque et doivent doubler de surveillance et faire très attention. Et aux États-Unis, c'est parti même à l'extrême. C'est le cas d'Angelina Jolie. Sa maman avait un cancer du sein et il avait ce gène.
Absolument.
Elle aussi, il a eu le gène et donc il a enlevé et les deux seins et les deux oreilles.
D'accord.
Ça, c'est l'extrême, c'est-à-dire, soi-disant, pour la prévention. Mais c'est-à-dire, ce qui est recommandé, c'est pour les personnes qui ont ce gène-là, de prédisposition, qui font une surveillance très rapprochée et au moindre doute, bien sûr, il faut opérer avant que ça s'aggrave et que ça devienne une maladie avancée.
Professeur Ali Tahari, vous étiez avec nous en direct depuis Marrakech. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média.
C'est toujours un plaisir.
Merci beaucoup à vous. Vous êtes professeur en oncologie et bien évidemment, cet entretien est réécoutable sur notre site média.com.